Salut à tous. En démarrant cet épisode 4 de ce podcast, je suis un peu dans l'expectative au niveau de sa durée. Je suis maintenant convaincu que 30 minutes, c'est plus ou moins la bonne durée pour un épisode. Difficile à estimer avant de commencer l'enregistrement. Je pense donc que pour rester dans cette logique, je vais scinder cette année 79 en deux parties, car il y a pas mal de matière, sans doute pas autant qu'en 78, mais est-ce assez pour deux? Là, ça est la question. Nous verrons bien. Donc, première partie de décembre 78 à mi-79, et on verra où cela nous mènera. Allez, on est parti. Générique. Comme traditionnellement, quelques événements plus ou moins historiques pour commencer. D'abord, un point anecdotique, mais pas complètement pour les Belges, c'est en effet en janvier à Forêt Nationale que Queen viendra défendre son Jazz European Tour, juste après l'Allemagne. Dans le monde, on note la fin de la dictature violente de Pol Pot au Cambodge, qui est alors renversée. En mars, on relève le premier gros accident nucléaire dans la centrale nucléaire de Three Mile Island. À la suite d'actions inadaptées, le refroidissement du cœur n'est plus assuré, entraînant la fusion d'une partie du combustible, c'est-à-dire la perte de la première barrière de protection. L'enceinte de confinement, troisième barrière, jouera son rôle pour limiter les rejets radioactifs. L'accident de Three Mile Island a été très instructif et a permis de faire avancer la sécurité. Le même mois, en Europe, on lance le système monétaire européen, successeur du serpent monétaire européen. Son objectif est de stabiliser les monnaies européennes. Suite à la révolution iranienne, qui s'achèvera par la fuite du Shah le 16 janvier 79, le prix du pétrole flambe, et en milieu d'année, on a droit au début du deuxième choc pétrolier, qui va durer plusieurs années. Enfin, notons les premières élections européennes en juin 79. Avec un taux de 91,3%, la participation belge est supérieure à la participation moyenne dans la communauté économique européenne, qui est de 62%. Elle est donc la plus élevée de tous les États membres. C'était un temps où en Belgique on espérait encore que la politique nous apporterait des solutions, et où les citoyens étaient motivés à s'exprimer. Qu'est-ce que le cinéma nous proposait donc sur les toiles cette année-là? Eh bien, les trois premiers films en début d'année démontrent bien que la guerre des étoiles a eu un impact sur la société, et que l'espace attire et fait rêver. Ce sera également le cas à la télévision, nous y reviendrons plus tard. Donc au cinéma, le premier film est un film français, qui fait partie d'un cycle qui sera ultra diffusé dans les années 80. Ça ne doit pas être loin d'être le premier film que je suis allé voir au cinéma. Je me souviens en effet être allé voir ce « Gendarme et les extraterrestres » avec Louis de Funès. Comédie loufoque où des extraterrestres robotisés viennent prendre la place des déjà célèbres gendarmes en étant leur sosie parfait. De Funès, Galabru et les autres trouveront une solution, l'eau qui détruit ces copies d'envahisseurs.
C'est pourquoi nous devons prendre certaines précautions. Alors, cessez de gueuler, parce que nous savons nous comment les exterminer.
On arrange les populations.
Oui, mon colonel.
Les exterminer comment, répondez.
Il rouille, mon colonel.
Le film suivant qui se présente en ce début d'année est un film de super-héros. Pour la première fois au cinéma, l'univers DC Comics présente Kal-El, alias Clark Kent, ou aussi Superman. Dans le rôle principal, un certain Christopher Reeve qui va marquer le personnage avec sa mèche rebelle sur le front. On retrouve aussi Marlon Brando et Gene Hackman au casting. L'histoire est simplement celle de ses origines et son arrivée sur la Terre.
His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman. This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie.
En février, Disney nous propose une curiosité, avec l'histoire d'un extraterrestre qui s'avère être un chat. Il est doté d'un collier qui lui confère des pouvoirs télépathiques, qui lui permet de parler aux humains sans pour autant remuer les lèvres. C'est mon premier souvenir de Disney, avec une grande affiche à l'époque du cinéma Marignan de Charleroi pour ceux qui ont connu ce cinéma. J'étais tout jeune, j'avais adoré. Ce film s'appelle Le chat qui vient de l'espace.
Zunar J5, ici fusée mère. As-tu réussi atterrissage forcé?
Affirmatif, mère. Demande pièce pour réparer.
Négatif, Zunar J5. À toi de réparer d'urgence. Point de rendez-vous interspatial 8304 à 69h-17.
Ça va être terriblement serré, mère.
Inévitable, Zunar. Pas de mission vers cette galaxie avant 1 à 5.
Jour?
5 années. Bonne chance, Zunar J5. Terminé.
Bon, bah, à bientôt, mère.
Tout autre chose, le mois suivant, un casting exceptionnel avec Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Meryl Streep et Christopher Walken. C'est un film qui raconte l'amitié de trois Américains, ouvriers partis combattre au Vietnam et qui en resteront marqués par des séquelles physiques ou psychologiques. C'est le premier film américain traitant de la guerre du Vietnam, de son traumatisme et des impacts psychologiques qu'elle a engendrés. Ce film s'appelle Voyage au bout de l'enfer.
Une balle, une seule.
Une seule.
Christopher Walken. Meryl Streep. John Savage. John Cazale. Robert De Niro. Un film de Michael Cimino.
Le premier, mais pas le dernier. La même année sort par exemple un film de Francis Ford Coppola, qui a obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 79 et qui a été nommé pour 8 Oscars. Ce film parle également de la guerre du Vietnam et d'un capitaine chargé de retrouver et d'exécuter un colonel dont les méthodes sont jugées malsaines. En effet, ayant pris la tête d'un groupe d'indigènes, il mène des opérations contre l'ennemi avec une sauvagerie terrifiante. De nouveau, on a affaire à un casting plein d'étoiles avec de nouveau Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Laurence Fishburne, Dennis Hopper ou encore Harrison Ford. Les cinéphiles auront bien sûr reconnu Apocalypse Now.
You must see it to believe it. Francis Ford Coppola presents Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Apocalypse Now, rated R, now playing.
Entre les deux est passé un film de John Carpenter, futur spécialiste de l'horreur qui allait lancer une série qui continue encore de nos jours. Le film nous raconte l'histoire du jeune Michael Myers, un meurtrier sauvage de sa sœur, qui se mue dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux de son crime. Il s'en prend alors aux adolescents de la ville. Donald Pleasence joue le psychiatre et Jamie Lee Curtis l'adolescente survivante. Ils tiennent tête au fou au masque. C'est bien évidemment Halloween, aussi appelé la nuit des masques en français.
I think he'll come back.
Voici pour cette première partie d'année sur le grand écran. Attaquons-nous donc dans la même période, mais au petit écran. Alors commençons comme d'habitude par la RTBF. Il y a toujours de très nombreuses émissions, continuation des années précédentes, donc on ne trouve que peu d'informations sur les réseaux. Est-ce pour des raisons de droit ou parce que très peu de choses ont été conservées ou numérisées à l'époque, je ne sais pas trop. Mais je me contenterai donc de citer les principales sur lesquelles j'ai trouvé des informations, ou pas. En effet, on trouve des traces de 1, 2, 3 cinéma et de boîtes postalgie dans les programmes télé de l'époque, mais aucune information sur leur contenu. On trouve également des traces de Minute Papillon, l'émission pour les consommateurs, mais les extraits sont inutilisables ici. Il y a bien sûr toujours Feu Vert, présenté maintenant par André Rémy, après le départ de Jacques Carreuil. On y retrouvait la diffusion d'un feuilleton télévisé, des variétés et un jeu pour les jeunes de 7 à 15 ans, c'est-à-dire des compétitions soit sportives, soit intellectuelles entre deux équipes. Également, je n'en trouve pas de traces utilisables. Passons donc maintenant à ce que l'on trouve de cette époque et dont les sons sont accessibles. Toute l'année, on retrouvera l'adaptation en dessin animé de la bande dessinée de Roba qui raconte les aventures familiales d'un enfant de 7 ans, Bull, et de son chien, un cocker appelé Bill. Sont aussi présents la mère et le père de Bull, Caroline la tortue et bien d'autres. Ensuite, on retrouve toujours les aventures du poussin le plus frustré du monde. Calimero.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
Comme sur FR3 un peu plus tôt, les aventures de Tintin, d'après Hergé, sont proposées par l'RTBF. Cette fois, ce sont des épisodes complets et pas des morceaux de 5 minutes comme sur FR3.
Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Le secret de la licorne.
On retrouve également le célèbre marin qui mange des épinards pour trouver sa force quand il doit défendre son amoureuse Olive, Popeye. Et enfin, un classique qui est présent depuis des années et qui revient de manière récurrente en racontant les aventures de ces espèces de personnages de pâte à modeler multicolores qui sont capables de prendre toutes les formes possibles. Oui, je parle bien sûr des fameux Barbapapa.
Il y a Barbapapa, Barbamama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbidure, Barbotine et Barbibule et Barbalala.
Viens avec nous chez Barbapapa.
Comme vous pouvez le constater, la RTBF commence à structurer et à varier son offre pour les enfants et prépare un premier gros coup pour la rentrée. Mais ce sera pour le prochain podcast. En parallèle, on y trouve des feuilletons tout public. Citons-en trois. Le Jeune Fabre, feuilleton datant de 73, qui raconte les débuts dans la vie professionnelle et les premiers émois amoureux du jeune Jérôme Fabre, à la recherche de son père, un artiste peintre. On retrouve Mehdi, qui avait cartonné à cette époque dans Les Belles et Sébastien, Sébastien parmi les hommes ou Sébastien et la Marie Morgane. Et aussi une toute jeune Véronique Jeannot. Toumaï, série également de 73, déjà passée deux fois dans Les Visiteurs du Mercredi sur TF1, apparaît sur la RTB. Elle raconte les difficiles rapports entre les animaux de la jungle et les hommes, lorsqu'un jeune garçon et son frère doivent s'enfuir avec leur éléphant, car on veut les en séparer. Enfin, le retour du saint, qui raconte les aventures du saint, donc à la fois justicier, voleur et détective. Il ne s'attaque qu'à des criminels, ce qui lui vaut parfois d'être qualifié de Robin des Bois des temps modernes. Il était joué dans la première série des années 60 par Roger Moore, le futur James Bond. Ici, c'est Ian Ogilvy qui prend le relais.
Monsieur ?
Templar. Simon Templar.
Enfin, citons plus pour l'anecdote et l'extrait audio, une série qui passait sur la deuxième chaîne, RTBF2. Elle s'appelait La Couronne du Diable et elle raconte de façon romancée le règne du roi Henri II et de ses fils Richard I et Jean. Voilà, ceci termine notre passage sur la RTBF. Parlons maintenant de Télé Luxembourg, que l'on appelle de plus en plus souvent RTL, car elle se présente maintenant sous le vocable RTL Télé Luxembourg. J'ai déjà abordé une émission qui va prendre de l'importance pour nos souvenirs. C'est une émission qui a commencé en 77 et qui va continuer jusqu'en 81. En effet, dans La Bonne Franquette, puisque c'est de cette émission dont je parle, vers 12h il y a un feuilleton pour démarrer l'après-midi. Et pour tous les enfants qui, comme moi, rentraient de l'école le midi pour manger quand ils étaient petits, c'était l'occasion de découvrir les 10 feuilletons. Donc nous allons plus précisément aborder certains de ces feuilletons qui allaient remplir les temps de midi entre fin 79 et début 80. J'ai bien évidemment choisi ceux qui me parlaient le plus. Une nouvelle fois, et je le répéterai sans doute encore, choisir c'est renoncer. Et je suis donc désolé si mon choix ne comprend pas celui de vos souvenirs. Pour cette première partie d'année, j'en relève trois. Avant tout, l'histoire de cette petite fille envoyée chez son grand-père dans les montagnes. C'est bien sûr ici la version feuilleton et pas la version dessin animé de Heidi. Ensuite, l'histoire de Koba, une jeune fille originaire du royaume de Kurland, île de la mer Baltique, qui, en pèlerinage historique à Avignon, rencontre François, un diplomate passionné d'archéologie. Ils tombent amoureux, mais sont séparés. Et dans une espèce de conte de fées, ils vont se croiser, se rater, et puis se retrouver à la fin. Le feuilleton s'appelle La Demoiselle d'Avignon, avec Marthe Keller et Louis Veil. Enfin, une série qui brosse le portrait idéalisé de l'Amérique des années 50 et du début des années 60. Elle met en scène la vie de Richard Cunningham, Richie, un étudiant un peu coincé, de sa famille, ainsi que de Fonzie, c'est-à-dire en fait Arthur Fonzarelli, un jeune loubard au cœur tendre, et de leurs amis. Le feuilleton s'appelle Happy Days, ou encore Les Jours Heureux en français. Monday, happy days. En dehors de la bonne franquette, on retrouve d'autres séries sur cette chaîne qui se positionnent donc évidemment dans ce domaine, et nous le verrons par la suite. Il y a aussi des émissions, mais dont les traces manquent. Je vais citer ici pêle-mêle Rush, Hawk, l'oiseau de nuit, c'était des séries dont je n'ai pas trouvé de traces, ou La Preuve par Neuf, ou encore Les Sentiers de l'Aventure. Même chose, pas vraiment de traces possibles à trouver. Dans d'autres cas, on trouve plus de traces. De nouveau, je vais ici aborder un trio de séries, qui sont La Cloche tibétaine, qui raconte l'expédition organisée par André Citroën en 31 et en 32 en Asie centrale, sur la route de la soie de Beyrouth à Pékin. Ensuite, une série qui met en vedette Suzanne Pepper Anderson, un sergent de police au département des mœurs à Los Angeles, où elle travaille sous diverses identités afin d'infiltrer les réseaux mafieux. Enfin, mon coup de cœur de cette période, Ma sorcière bien-aimée, qui raconte les aventures de Samantha, membre d'une éminente société de sorcellerie, qui tombe amoureuse puis épouse Jean-Pierre Stephens, un mortel qui travaille dans l'agence de publicité McCann & Tate. Pour cacher ses talents tout en les utilisant quand c'est nécessaire en secouant le bout de son nez, elle doit utiliser bien des stratagèmes. Voici pour ce que l'on trouvait de remarquable sur RTL dans cette période. Nous voici donc de nouveau devant les chaînes françaises et leur lutte pour l'audimat des plus jeunes. Comme promis dans l'épisode précédent, commençons par la transition annuelle que sont les programmes des fêtes en 78-79. C'est en effet la troisième saison des Visiteurs de Noël qui se présente à nous sur TF1. Il y a une nouvelle présentatrice, chanteuse à la basse, Jeanne-Marie Sens. On y note la présence des habitants de l'île aux enfants et toujours Cibor et Bora dans le décor. Cette fois, Jacques Trimolin ne raconte plus d'histoire, mais il raconte cette fois simplement Disney. Les anciens présentateurs, Réchaud et Frigo, soit les frères Jolivet, sont toujours présents, et ils font maintenant des petites séquences humoristiques. On a toujours la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps, Maya. Mais surtout, on va y découvrir un feuilleton anglais qui met en image des romans que tous les enfants de cette époque lisent. Ce sera un carton qui va continuer durant l'année et amener des rediffusions par la suite. L'histoire parle de Claudine Dorcel, qui, en bon garçon manqué, préfère être appelée Claude. Elle a 11 ans et a un tempérament assez difficile et rebelle. Elle vit avec son père, un savant de grande renommée, sa mère Cécile et leur chien. Un beau jour, ses trois cousins arrivent à la maison pour les vacances. François, 12 ans, Mick, 11 ans et Annie, 10 ans. Les quatre enfants vont rapidement former un quatuor de détectives en herbe, aidés par Dagobert, le chien de Claude. Tout est donc en place pour les aventures du Club des 5. Ensuite, dans cette première partie d'année, que proposait aussi TF1 pour les jeunes? Dans l'émission Au plaisir du samedi, on retrouvait deux dessins animés importants. D'abord L'araignée, soit Spider-Man dont nous avons déjà parlé, qui était de retour après quelques années. Et surtout, une chouette histoire si on fait fi de l'invraisemblance historique. Cela parle d'une famille, les Butlers, qui passent des vacances au fin fond de l'Amazonie et qui se retrouvent projetés dans le temps, à l'âge de la préhistoire, après que leur embarcation ait été engloutie dans un tourbillon. Ils vont alors rencontrer et se lier d'amitié avec une famille préhistorique qui va leur apprendre à survivre dans ce milieu hostile. Ce dessin animé s'appelle La Vallée des Dinosaures.
John Proctor passait avec sa famille des vacances au fin fond de l'Amazonie. Soudain, leur embarcation fut entraînée par des rapides et se retrouvèrent dans une vallée inconnue qui abritait des animaux soi-disant disparus depuis des millénaires. Ils furent sauvés puis recueillis par des indigènes qui parlaient, aux surprises, parfaitement leur langue.
On retrouve également les visiteurs du mercredi, avec des rediffusions de Valeurs Sud, Toumaï, Le Club des 5, Mon Ami Ben et Prince Noir. Lors des premières évocations de ce feuilleton, je n'avais pas eu l'occasion de creuser un peu, donc étant donné qu'il a marqué mon enfance, j'y reviens quelques secondes. Prince Noir, c'est l'adaptation d'un grand classique de la littérature enfantine britannique, écrit par Anna Sewell en 1877, Black Beauty. Ce roman dénonçait le mauvais traitement infligé aux chevaux en Angleterre. Il avait provoqué une crise de conscience, qui a abouti finalement à l'amélioration du sort des équidés. L'histoire de la série parle de l'amitié entre un étalon nommé Prince Noir et deux enfants, Victoria et Kevin Gordon, dans l'Angleterre du 19e siècle. En semaine, on a toujours Assilion et sa bande, qui continuent son bout de chemin avec des séries telles que Moby Dick ou Les Robinsons du Pacifique. Deux nouvelles séries sont ajoutées au catalogue, l'histoire d'une super fourmi, à Thomas la fourmi atomique, d'un autre côté commence un des dessins animés les plus démoralisants de l'époque. Il y en aura d'autres, à croire qu'ils avaient décidé de nous casser le moral à cette époque. On peut faire un lien avec Maya l'abeille, mais c'est uniquement lié au type d'insecte. En effet, c'est ici l'histoire du fils de la reine des abeilles, qui est séparé de sa mère lorsque la ruche est détruite par une attaque de guêpe. La série suit le jeune héros dans ses recherches pour retrouver sa mère, au sein d'une nature hostile et cruelle, avec de la violence, de la mort et des pleurs. On parle ici de Uchi, le prince orphelin. En dehors des émissions pour enfants, on trouve le démarrage d'une émission de vulgarisation scientifique qui mêle à la fois science, science-fiction et culture populaire. Elle allait devenir populaire au fil des années grâce à l'aura des frères qui la présentent. Ce sont les frères Bogdanov. L'émission s'appelle Temps X.
Février 1828. Dans une petite île battue par les vents, naît un écrivain dont l'œuvre extraordinaire, traduite en plus de 116 langues, reste encore aujourd'hui celle qui est le plus lue dans le monde entier. Il s'appelait Jules Verne.
Une autre série fantastique démarre avec Patrick Duffy, le futur Bobby de Dallas dans le rôle principal. Elle raconte l'histoire de Mark Harris, seul survivant de la légendaire Atlantide. Il est doté de mains palmées, d'une vision décuplée et peut se déplacer sous l'eau de manière rapide et prolongée. Échoué sur une plage californienne après une violente tempête, il est sauvé par le docteur Merrill, qui lui propose de rejoindre la fondation de recherche océanographique pour laquelle elle travaille. La série s'appelle L'Homme de l'Atlantide. On trouve également une série qui raconte les pérégrinations d'un aventurier des temps modernes, Runner, qui se dissimule sous l'identité de Monsieur Duvalier, un notable. Ancien gangster présumé mort, Runner prend en fait les traits d'un vieil et riche homme d'affaires pour devenir philanthrope et améliorer la condition humaine. Seule sa secrétaire Laurence connaît son secret. Ce feuilleton s'appelle L'étrange Monsieur Duvalier. Au niveau des émissions, je n'en citerai qu'une pour des raisons que je dois vous expliquer. Je fus fan des histoires racontées par Pierre Belmar. À l'époque, il racontait dans « C'est arrivé un jour » une histoire par jour face caméra. Ces histoires furent le début d'une belle aventure entre ce que produisait Pierre Belmar et mon évolution d'adolescent. J'ai en effet par la suite lu en livre énormément de ces histoires, qu'elles soient extraordinaires ou pas, et j'en ai écouté beaucoup. Sa voix était parfaite pour ce genre d'expérience auditive. Le générique de cette émission, vous l'entendez en début de chaque épisode ici. En effet, c'est en quelque sorte par hommage pour son émission que je l'ai repris. Mais par contre, nous pouvons quand même écouter quelques moments sa voix.
Doucement, le soldat dégage sa main et il regarde une dernière fois le mort en face. L'infirmière dit « C'est fini, monsieur. Votre père est mort tranquillement. Revenez plus tard pour les formalités, il faut vous reposer. » Alors le soldat la regarde. C'est un grand garçon bien calme, aux cheveux courts, aux yeux tranquilles. Il a 22 ans et il dit « Ce n'était pas mon père, mademoiselle. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il faut prévenir sa famille. »
Alors, chaîne suivante que l'on aborde donc, Antenne 2. Pour les enfants, Récréa 2 continue sa belle évolution avec Dorothée toujours aux commandes, et pour l'instant c'est toujours uniquement le mercredi. Un nouveau générique est composé, chanté par Samsung et compagnie.
Récréa 2, avec ton nom, très bon enfant, oublions tout, c'est la récré, et les visées, bien que vous Récréa 2, rayons de tout, loisir et jeu, pour tous les goûts, très bon enfant, oublions tout, Récréa 2.
Bien évidemment, vu la jeunesse de l'émission et les cartons en cours, on garde le contenu principal avec ses séquences de chansons, comédiens, rubriques éducatives et bien évidemment les dessins animés. Pas de grandes remarques à rajouter sur les dessins animés, si ce n'est qu'une nouvelle fois on a droit à un nouveau générique pour le carton Goldorak.
Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. À toute la rue, bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter.
Quant à Candy, qui continue son évolution dans la vie avec les enfants qui suivent ses aventures, on a droit à un joli générique de fin.
Les rêves sont courts, la nuit tombe.
Les livres parlant de cette époque nous précisent aussi qu'il y aurait l'arrivée de Tarzan, série la plus proche du roman. Un exemple pour expliquer pourquoi elle était plus proche du roman, c'est que le petit singe qui accompagne Tarzan dans cette série s'appelle Nkima, ce qui est le nom originel, et pas Cheetah, Le nom de Cheetah avait en effet été inventé pour les films.
Je serais mort très vite, moi aussi, si je n'avais pas été recueilli par une femelle singe nommée Kala. Elle m'éleva comme son propre enfant et m'enseigna les lois de la jungle. J'appris très vite et devins plus fort chaque jour. Et maintenant, j'ai l'amitié et la confiance de tous les animaux de la jungle. Et je protège ceux qui y viennent, car je suis Tarzan, seigneur de la jungle.
En dehors de Récréa 2, on trouve sur Antenne 2 des émissions classiques comme Top Club et le palmarès des chansons présentées par Guy Lux. On a toujours SVP Disney qui maintenant n'est plus présenté par Pierre Tchernia, mais bien par Dorothée. Pour le sport, on a Stade 2. Et au niveau des séries, on trouve Super Jimmy et les histoires du commissaire Maigret avec Jean Richard dans le rôle principal. Enfin, la troisième chaîne, FR3. Elle commence à vraiment faire de bons choix pour les jeunes. J'aborderai d'abord rapidement les contes du folklore japonais. Ce sont des contes, légendes ou fables qui sont ici exposés en une série d'animations faites d'ombres chinoises animées avec des personnages dont les silhouettes ont été découpées. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé de traces qui me permettent de faire une petite version audio. Ensuite, pour les plus petits, on a droit à la rediffusion de Saturnin, série qui met en scène des animaux réels auxquels des comédiens prêtent leur voix, et qui narre les aventures d'un canard caractériel, Saturnin, et de ses compagnons.
Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin.
Puis on retrouve la rediffusion de Aglaé et Sidonie, une animation réalisée image par image avec des figurines articulées. Elle raconte que dans une fermette vivent Aglaé, la jeune truie et la petite oie Sidonie. Il y a aussi le renard Croque-Tout qui rôde autour de la ferme, qui aimerait bien faire son repas de ces deux appétissantes demoiselles.
À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.
Et voilà, ceci termine cette première partie d'année 1979. Je vous rappelle néanmoins que tout ceci est basé sur des recherches personnelles sur différents sites qui sont parfois contradictoires. Plus on avance, plus ce seront mes souvenirs qui pourront prendre le pas et confirmer les dites infos. En attendant, si vous y trouvez des erreurs, ben je m'en excuse. Maintenant, dernière ligne droite vers les années 80 avec la deuxième partie de 79. Mais ce sera pour le prochain épisode. Et en attendant, comme le dira à chaque fois Jean Topard...
Au revoir. À bientôt.